Bonjour à tous et à toutes. Pour cette rentrée, Révolution Permanente est heureux de vous présenter Marxisme et Stratégie, un podcast disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ateliers, séminaires, forums, réunions publiques, toute l'année, Révolution Permanente anime de nombreux débats sur le marxisme et le communisme, la stratégie révolutionnaire, la lutte contre toutes les formes d'oppression et bien d'autres sujets. Nous sommes heureux de vous proposer d'écouter ou de réécouter ces débats sur cette toute nouvelle chaîne. Depuis les événements de mai 68, qui ont provoqué une transformation majeure de l'enseignement supérieur, le mouvement étudiant n'a cessé de se restructurer pour faire face aux offensives libérales des différents gouvernements ou au contraire s'adapter et se ranger à leur côté. Léo Valadim du Point Levé revient sur l'histoire de ce mouvement d'avant-garde, ses liens avec le mouvement ouvrier et trace des perspectives pour l'avenir de celui-ci. Un épisode enregistré lors de l'Université d'été 2023 de Révolution Permanente. Bonne écoute!
Marxisme et stratégie, le podcast de Révolution Permanente.
Nous entrons dans une séquence d'instabilité profonde, marquée par une crise de régime historique faisant suite au mouvement social le plus massif de ces dernières décennies, suivi d'une puissante révolte de la jeunesse des banlieues. La grande répression dont ont fait les frais des centaines de jeunes mobilisés, et notamment étudiants, comme à Bordeaux où des individus identifiés comme des leaders de l'occupation du campus Montaigne ont été perquisitionnés et placés en garde à vue, est à l'image de la peur du gouvernement du retour en force de cet acteur historiquement dangereux pour le pouvoir. Le mouvement marque en effet la poursuite d'une nette recomposition dans le mouvement étudiant, alors que les réformes de l'enseignement supérieur ont profondément bousculé les universités ces dernières années. L'effondrement de l'UNEF et la restructuration du syndicalisme étudiant, le succès éphémère de l'autonomisme ou encore l'émergence récente du Point Levé comme acteur national sont autant de symptômes visibles de ces recompositions. Rien n'est écrit sur l'avenir du mouvement étudiant, mais beaucoup de signes indiquent qu'il est possible de reconstruire un mouvement étudiant puissant, massif et allié du monde du travail face au capitalisme français et à leur gouvernement. Mais nous ne pouvons pas compter, après deux décennies de recul marquées par de nombreuses contradictions, sur la recomposition spontanée de cet acteur historique de la lutte des classes en France. Nous sommes convaincus que, comme organisation de jeunesse révolutionnaire fortement implantée, et parfois majoritaire, dans de nombreuses universités du pays, dont certaines ont été le fer de lance de précédents mouvements étudiants, nous avons un rôle important à jouer. Dans ce podcast, nous tâcherons de soumettre à la discussion, à partir des caractéristiques historiques acquises par le mouvement étudiant et des modifications profondes subies par l'université ces dernières décennies, de tirer des conclusions qui peuvent nous servir pour intervenir dans la situation présente, pour construire une organisation de jeunesse révolutionnaire, forte de milliers de militants, qui sont en mesure d'œuvrer à la reconstruction d'un mouvement étudiant à la hauteur des défis posés par les temps qui viennent. Si l'existence de puissants mouvements étudiants, de droite comme de gauche, est antérieure à la massification de l'université, c'est dans la deuxième moitié du XXe siècle que le mouvement étudiant s'est affirmé comme un acteur déterminant de la lutte des classes dans de nombreux pays, et notamment en France. Si en mai 68, le mouvement étudiant avait entraîné à ses côtés le mouvement ouvrier dans ce qui deviendra la plus importante grève générale de l'histoire occidentale, c'est alors le résultat de modifications profondes des universités. Celles-ci se sont en effet massifiées brutalement après la Seconde Guerre mondiale, afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée liés à la reprise économique d'après-guerre et à une série d'avancées techniques qui entraînèrent une intégration massive de travailleurs intellectuels au processus de production immédiat. C'est alors qu'a commencé à se développer un mouvement étudiant massif avec une forte tendance à la jonction avec les travailleurs liée à la massification rapide des facs. Le nombre d'étudiants a triplé entre 1950 et 1968 et à la prolétarisation des débouchés universitaires. En effet, l'évolution technique des procédés de production d'après-guerre, automatisation, cybernétique, énergie nucléaire, électronique, etc., entraîna un besoin urgent de travail intellectuellement qualifié. Cette massification extrêmement rapide des universités s'est faite malgré des infrastructures sociales totalement insuffisantes pour accueillir ce nombre de nouveaux étudiants, ce qui supposait l'accès à des repas bon marché, à des systèmes de transport en commun adéquats, des logements accessibles et subventionnés, des places suffisantes dans les salles de cours, des amphis, des labos, etc. Dans le creuset de ces bouleversements de l'université liés à des modifications des besoins capitalistes, le développement du mouvement étudiant des années 60 et 70 s'est combiné à un contexte idéologique et politique marqué par une poussée révolutionnaire internationale à partir de la fin des années 60. Lutte de libération nationale en Algérie, au Vietnam, etc. Les échanges internationaux sont alors très importants par le biais notamment de la lutte contre la guerre du Vietnam et stimulés par le développement technologique des moyens de communication et d'information, du tourisme, etc. Cette combinaison donna lieu au mouvement de mai 68, qui a débouché sur la plus grande grève générale de l'histoire d'Occident. Le mouvement étudiant de masse était né, jouant un acteur de détonateur central et d'entraînement du mouvement ouvrier, un acteur clé pour penser la révolution en France. La massification des universités avait fait du mouvement étudiant une force sociale énorme qui allait continuer de croître, beaucoup plus nombreuse numériquement par exemple que les paysans. Si le mouvement étudiant du début du XXe siècle, composé essentiellement d'enfants de la bourgeoisie, avait eu de nombreuses expressions anti-ouvrières, allant jusqu'à briser physiquement des grèves, la massification a été avec une identification plus forte au mouvement ouvrier, la droite étant marginalisée par ce changement rapide de composition sociale à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale. À moyen et long terme, la prolétarisation des débouchés des universités a eu pour conséquence une répercussion importante de l'expérience acquise par le mouvement étudiant et lycéen dans le monde ouvrier syndical. Du point de vue de la bourgeoisie, il devenait alors urgent, dès le lendemain de mai 68, de donner une issue réactionnaire à cette situation. Il n'était alors pas tolérable qu'existe un acteur aussi massif, dangereux et vecteur de radicalisation du mouvement ouvrier, pas plus qu'il n'était acceptable que cette institution coûteuse soit autant inadaptée aux besoins de formation et de recherche de la bourgeoisie. En effet, l'université était initialement conçue pour former des enfants de la bourgeoisie, avec par exemple beaucoup de contenu théorique général et peu de pratique. Pour la rentabiliser, l'université française avait en effet besoin d'une production de diplômes la plus en adéquation possible avec le marché du travail, d'une recherche la plus possible en lien avec les besoins des monopoles capitalistes et de l'État, notamment l'armée, d'un contenu de formation qui corresponde aux exigences des grandes entreprises et d'une gouvernance des facs adaptée à la mise en œuvre de ces impératifs. Et pour y répondre, la sélection est absolument nécessaire, combinée avec une répression sévère pour imposer discipline, respect de l'autorité et éviter des révoltes étudiantes. Ce programme ne date pas d'hier, c'était les conclusions immédiates de la bourgeoisie après mai 68. C'est alors ouvert un cycle profond de lutte sur l'issue à la crise de l'université qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. La méthode consacrée dès la loi Faure de 1969 est celle de la cooptation des organisations étudiantes et de l'autonomie des universités. Cette logique choc est en vigueur jusqu'aujourd'hui et a depuis été renforcée par une série de réformes, notamment les LRU 1 et 2. Pousser les universités à s'auto-réformer localement, en concurrence les unes avec les autres, pour survivre à la misère budgétaire. Voilà la logique. Les organisations des étudiants et personnels peuvent siéger dans les conseils, dans lesquels elles sont fortement incitées à co-gérer les universités et la politique austéritaire. Dans le cadre de cette lutte sur l'avenir de l'université, engagée au lendemain de mai 68, et des différents combats menés par le mouvement étudiant, il va connaître d'importantes recompositions politiques et syndicales et il va poursuivre son expérience d'auto-organisation. Les assemblées générales et coordinations seront récurrentes dans les mouvements qui suivirent, comme l'expression de la volonté des étudiants à se coordonner nationalement en élisant des délégués à partir des assemblées, dépassant les organisations préexistantes et permettant aux étudiants de prendre en main leur mouvement par la base. Jusqu'à récemment, ce sont des organisations étudiantes, notamment d'extrême gauche, qui ont joué un rôle important pour la passation de cette tradition. En 1986 notamment, vit jour le mouvement étudiant le plus massif de l'histoire jusqu'alors, contre la loi Devaquet qui promettait la sélection et le renforcement de l'autonomie et de la concurrence entre universités. Ce mouvement fut alors l'expression d'une fusion entre un répertoire syndical traditionnel et le répertoire d'action issu des années 1970, principalement avec la mise en place d'une coordination nationale étudiante qui a joué un rôle central. Ce mouvement étudiant massif, avec des centaines de milliers d'étudiants dans les rues, va avoir tendance à se radicaliser, notamment face à la répression et aux fachos, qui vont nécessiter par exemple à Paris la mise en place de services d'ordre auto-organisés impressionnants qui tiendront en respect les assauts importants du GUD lors de manifestations étudiantes. La coordination nationale réunit alors des délégués de toutes les facs qui élisent un bureau révocable chargé de porter la parole du mouvement. La coordination s'affirme alors comme seule expression légitime du mouvement, ce qui évite notamment la possibilité de trahison du mouvement par des syndicats étudiants. Comme auparavant, elle est encouragée par des forces politiques qui maintiennent cette tradition, notamment la LCR au sein de l'UNEFID. Elle appelle notamment à une manifestation nationale et une grève de 11h à 12h le 8 décembre, à laquelle elle appelle toutes les organisations syndicales et politiques et l'ensemble de la population à se joindre. Le 8 décembre, Jacques Chirac annonce le retrait de la loi Devaquet et de la réforme du lycée Monory, après que la féroce répression du mouvement ait fait un mort, Malik Oussekine. Le mouvement étudiant, au travers de sa coordination, s'était alors fixé comme objectif explicite d'entraîner le mouvement ouvrier, ce qui fonctionnera en partie. La coordination nationale étudiante de 1986 a eu un impact significatif sur le mouvement ouvrier, devenant sans doute l'illustration la plus spectaculaire de la répercussion de l'expérience acquise par le mouvement étudiant auprès des travailleurs comme corollaire de la massification des universités. Le modèle des coordinations composées d'élus par les assemblées de base a alors été repris par les cheminots à l'hiver 1986, puis dans les nombreuses grèves au cours des années suivantes. Instituteurs en 1987, les infirmières en 1988, ou encore les ouvriers de la SNECMA, l'entreprise ancêtre de Safran. Depuis, il y a eu d'autres mouvements étudiants, et surtout le plus important, celui contre le CPE en 2006. C'est alors le code du travail qui est en jeu, pas une réforme universitaire. La mobilisation met en mouvement des manifestations de masse et des actions coup de poing partout dans le pays. Là encore, des assemblées générales massives élisent des délégués dans une coordination nationale qui aura pour volonté d'entraîner le mouvement ouvrier. Et le gouvernement cédera après avoir pourtant passé sa loi par 49-3. Il s'agit de la dernière victoire revendicative d'un mouvement national et le dernier grand mouvement étudiant. Dans la foulée, la volonté de la bourgeoisie française d'accélérer les réformes et de, je cite, « réparer les débats de mai 68 », comme le dira Valérie Pécresse, artisane de la loi LRU, va se radicaliser. La crise de 2008 va renforcer les contradictions de l'université et de l'existence d'un tel mouvement étudiant du point de vue des classes dominantes. Celles-ci sont alors pressées de baisser drastiquement les dépenses publiques alors que la concurrence pour les emplois qualifiés est accrue par la crise. Une série de réformes se sont depuis enchaînées qui ont profondément impacté les universités et le mouvement étudiant. Autonomie budgétaire des universités, normalisation des frais d'inscription, arrivée de représentants d'entreprises dans les gouvernances d'universités, Parcoursup, sélection brutale de la L3 au master, adaptation toujours plus importante de la recherche et de la formation aux besoins des monopoles capitalistes et des secteurs comme l'armée, gros renforcement des filières professionnalisantes dont le contenu est directement dicté par les besoins du marché du travail, élitisation d'une partie des facs et poubellisation de l'autre pôle qui a toujours moins de moyens, répression administrative et judiciaire des étudiants mobilisés de plus en plus importante, etc., etc., etc. C'est dans ces coordonnées de changement profond de l'université que se situe la crise du mouvement étudiant hérité de mai 1968. Force est de constater que la réforme structurelle de l'université par la bourgeoisie a avancé et que c'est dans ce contexte nouveau que le mouvement étudiant peine à renouer avec ses heures de gloire et qu'il connaît une importante phase de recomposition. Depuis 2006, l'université a beaucoup changé. Les procédés de sélection et de répression ont beaucoup avancé et nous devons chercher à regarder les contradictions profondes à l'œuvre pour penser le mouvement étudiant qui vient. Si le mouvement étudiant apparu en mai 68 et qui eut cours dans les décennies suivantes avait pour ressort la massification des universités et la prolétarisation des débouchés, qu'en est-il aujourd'hui de ces conditions qui fondaient alors un mouvement étudiant de masse allié du mouvement ouvrier ? Depuis la LRU de 2007, en cherchant à lier le plus possible les diplômes aux besoins du marché du travail, renforçant les filières courtes et professionnalisantes, faisant du taux d'insertion par diplôme une donnée fondamentale de chaque filière universitaire, généralisant les stages et autres alternances, les gouvernements qui se sont succédés ont considérablement renforcé la prolétarisation des débouchés universitaires. Or, la nécessité de prolétariser dans des filières courtes une grande masse des étudiants n'a plus comme ressort l'augmentation des besoins en main-d'œuvre intellectuelle qualifiée comme c'était le cas dans les années 1950-1960, mais au contraire sa réduction du fait du ralentissement économique. Le phénomène de l'émergence des diplômés déclassés dans les années 90-2000 répond à une baisse structurelle des rendements salariaux et professionnels des diplômes universitaires liés à la crise économique. Or, ce besoin pour les classes dominantes de réduire le nombre d'étudiants est en contradiction fondamentale avec les aspirations des jeunes et des classes populaires à l'ouverture des études supérieures, qui est elle-même conséquence de la massification sur laquelle les gouvernements successifs n'ont pas réussi à revenir. Au contraire, entre 1995 et 2020, le monde étudiant est passé de 1 700 000 individus à 2 700 000 individus, avec des conditions d'études qui continuent de s'aggraver. Précarité, mal logement, locaux inadaptés, etc. Face à cette contradiction, la bourgeoisie cherche à convaincre de ses propositions pour résoudre la crise de l'université avec des arguments méritocratiques. Macron défend fièrement la nécessité de sélectionner les étudiants pour lutter contre la précarité, par exemple. Son plan étudiant de 2017, outre la mise en place de Parcoursup, prévoyait également le conditionnement des bourses et des aides au logement à la réussite. C'est aussi sur ce terreau que la droite universitaire cherche à avancer ses propositions nauséabondes et notamment la question de la préférence nationale. La lutte pour une université publique, gratuite et sans sélection concerne non seulement les étudiants, mais aussi tous les travailleurs, les travailleuses et le peuple. C'est une préoccupation très importante, comme on l'a vu pendant la crise Covid, où la condition des étudiants a choqué toute la société. Les sociologues Cédric Hugré et Tristan Poulaouec soulignent que jamais les familles populaires n'ont autant aspiré à voir leurs enfants obtenir un diplôme dans l'enseignement supérieur français, et qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans l'appropriation populaire des nouveaux enjeux scolaires français. C'est dans ce cadre qu'on peut comprendre toutes les mobilisations spontanées d'étudiants de ces dernières années pour protester contre leurs conditions d'études, se cristallisant souvent sur la question des examens et en général dans des filières les plus populaires et les plus professionnalisantes. L'expression la plus remarquée de ce phénomène a été le hashtag étudiant fantôme pendant la crise pandémique qui exprimait l'indignation face au traitement des étudiants pendant le pic de la crise et qui s'était concrétisé par de nombreux blocages d'examens dans des universités et ou des filières où les organisations étudiantes de gauche sont très faibles. Des phénomènes similaires continuent à se produire et ont notamment eu lieu pendant la réforme des retraites dans des secteurs d'étudiants extérieurs au mouvement étudiant traditionnel dans des filières comme économie-gestion ou AES. Revendiquant souvent leur droit à la réussite, exprimant des pressions individualistes et scolaires, plus que des revendications claires contre la sélection, le contenu de ces manifestations étudiantes n'est pas encore très clair et déterminé. Elles expriment une explosivité de ces secteurs, dans lesquels il y a une importante bataille à mener pour qu'ils s'orientent et s'organisent en direction de revendications historiques de l'accès gratuit et ouvert à toutes et à tous des universités, contre la sélection, la précarité, pour la gratuité de l'enseignement, etc. Par ailleurs, avec la massification des universités, c'est aussi massifier la quantité d'étudiants salariés qui représente aujourd'hui 5 à 6% du salariat global, sans compter les stages auxquels les recours s'est généralisé depuis la fin des années 1990. En 2010, près de 80% des diplômés de l'enseignement supérieur avaient réalisé un stage. Une large majorité des étudiants stagiaires considèrent avoir travaillé comme un autre salarié, alors que 4 stages sur 5 sont rémunérés moins de 700 euros par mois, voire pas rémunérés du tout. Tous ces éléments objectifs liés aux réformes de ces dernières décennies ont renforcé la capillarité entre étudiants et monde du travail. Ainsi, les conditions objectives pour un mouvement étudiant de masse allié du mouvement ouvrier ne semblent pas avoir disparu avec les réformes néolibérales de ces dernières décennies. Bien au contraire, elles ont eu tendance à s'aiguiser. De ce point de vue, il n'est pas anodin que le mouvement de 2006 ait eu lieu sur une question relative au droit du travail, de même que celui de 2016, bien qu'il ait été bien plus petit. Le mouvement contre la réforme des retraites en 2023 a vu l'entrée en scène d'un grand nombre de jeunes et d'étudiants, exprimant une confluence entre la politisation liée aux mouvements sociaux de ces dernières années, contre le racisme d'État, l'autoritarisme, les violences policières, pour le climat, contre le patriarcat, etc., et les frustrations des étudiants de la période Covid. Sélection brutale à l'université, aggravation de la pauvreté étudiante, isolement, etc. Et si cette lutte n'a pas donné lieu à un développement d'un mouvement étudiant à proprement parler, et nous y reviendrons, les phénomènes de jonction avec le mouvement ouvrier qui s'y sont exprimés sont particulièrement manifestes. Le politologue spécialiste des mouvements étudiants Robbie Morder décrivait alors « La présence étudiante et lycéenne est maintenant manifeste, non seulement dans les cortèges, ce fut déjà le cas dans le mouvement de 1995, et dans les manifestations sur les retraites des années 2000 et 2010, elle l'est désormais à la base. Dans de nombreux établissements, étudiants et lycéens décident, dans leurs assemblées générales et leurs réunions, de prêter main forte aux piquets de grève de salariés. Par exemple en Île-de-France, sur les sites de traitement des déchets. Et l'on a eu aussi des cas où des salariés grévistes viennent renforcer des blocages de lycéens pour les protéger face à la police. La nouveauté réside dans la systématisation de ces rencontres, leur multiplication, et que cela va de soi pour les acteurs, nous dit Robbie Morder. Par ailleurs, si l'offensive contre l'université publique s'accompagne d'une préoccupation de resserrer la vis idéologiquement dans les universités, à l'image du haro contre l'islamo-gauchisme qui gangrène la société et l'université selon la ministre Frédérique Vidal, ou contre les chercheurs qui s'intéresseraient aux explications culturelles et sociologiques après les attentats de 2015 d'après Emmanuel Valls, force est de constater là aussi que ces gouvernements se heurtent à des contradictions. Si une partie du corps enseignant se polarise sur la droite et que la répression s'intensifie, il est difficile d'attendre de l'université d'être un monolithe idéologique et de remplir pleinement sa fonction de relais idéologique des gouvernements néolibéraux autoritaires, alors que d'énormes niveaux de précarisation des enseignants fissurent l'institution Au point que, par exemple, en avril 2023 de cette année, nous avons vu des appels à la rétention des notes de la part des précaires. C'est aussi dans ce contexte de précarisation des universités et de politisation qui tend à se radicaliser qu'on peut constater un appétit intellectuel pour les théories critiques sur les questions notamment d'écologie et du travail, avec de nombreux séminaires animés par des enseignants et un espace marqué par une possibilité de retour du marxisme après sa dévitalisation dans les années 1980. Si on regarde donc l'évolution de la situation économique des étudiants et de l'université comme relais de l'idéologie dominante, on se rend compte que les contradictions objectives de l'université qui ont donné lieu à d'importants mouvements étudiants n'ont pas disparu malgré d'importantes mutations. À ces questions, il faut ajouter le fait que les connexions internationales de la masse des étudiants et des jeunes n'ont jamais été aussi fortes. Elles le sont beaucoup plus qu'en 1968, où déjà les nouvelles techniques de communication avaient joué un rôle important dans la politisation radicale de toute une génération, notamment contre la guerre au Vietnam. Ces connexions expliquent le caractère international, simultané et massif des mouvements comme Black Lives Matter, des grèves pour le climat ou encore la quatrième vague féministe dans laquelle la jeunesse a pris une place très importante. Malheureusement, ces liens ne se traduisent pas pour l'instant dans l'établissement d'organisations internationales ni de grandes campagnes politiques comme ce fut le cas dans les années 1970, à l'exception du mouvement écologiste qui a un temps d'avance sur ce terrain à l'image de Youth for Climate et Extinction Rebellion. Il s'agit là d'un chantier important pour la jeunesse révolutionnaire, notamment le courant international du point levé, la FTQI, qui compte des collectifs de jeunesse et étudiants dans de nombreux pays, notamment en Europe. La mobilisation en soutien à la Palestine représente un défi important en ce sens. Par ailleurs, la massification des universités est aujourd'hui beaucoup plus avancée à l'échelle mondiale qu'au siècle dernier, notamment dans les pays du sud global, dominés par l'impérialisme. Dans les années 1960, la massification concernait surtout l'Occident, le Japon et quelques pays comme l'Argentine. Au Sénégal, par exemple, le nombre d'étudiants a doublé entre 2012 et 2018 pour atteindre près de 200 000 personnes. L'université Cheikh Anta Diop à Dakar, qui a constitué le principal bastion des soulèvements populaires contre Macky Sall ces trois dernières années, compte plus de 60 000 étudiants, soit plus que la somme des étudiants de Nanterre et de Paris 8. Cependant, malgré ces conditions objectives, force est de constater que le mouvement étudiant que nous avons connu cette année n'a pas été aussi fort que ceux de 1986 ou de 2006, et que nous sommes encore loin de connaître un mai 68 dans les conditions nouvelles posées par l'université du XXIe siècle. L'auto-organisation des étudiants est restée faible dans les facs. Ceux-ci n'ont produit aucun activisme significatif sur leur lieu d'études, et leur participation au mouvement s'est faite hors des murs des universités, et principalement en étant dilué comme une somme d'individus dans les marches ou les actions. On peut chercher beaucoup d'explications objectives dans la répression, les avancées des réformes néolibérales. Mais alors, comment caractériser cette forme de passivité étudiante quand on voit une politisation aussi large qui va en se radicalisant, à l'image des mouvements sociaux animés par des jeunes ces dernières années, de l'intérêt croissant pour les activités associatives ou encore la quantité d'étudiants qui ont manifesté contre la réforme des retraites? Certainement pas une adhésion à la méritocratie macronienne. Une dimension centrale de cette réalité réside dans l'effondrement du vieux mouvement étudiant et à la difficulté à l'émergence d'alternatives crédibles qui fassent vivre les meilleures traditions héritées des puissants mouvements qui nous ont précédés. Comme nous l'avons vu, la passation de méthodes des coordinations étudiantes, qui ont permis au mouvement étudiant de se doter d'organismes représentant les aspirations de la grande masse des étudiants mobilisés et qui ont profondément influencé le mouvement ouvrier de l'époque, n'ont pas été le simple fruit des contradictions objectives de l'université. Elles ont été l'enjeu de batailles politiques importantes menées par des organisations défendant ces modalités, souvent contre les bureaucrates syndicaux, à l'image de la LCR en 1988-86 et de Sud en 2006. Après 2016 et le mouvement contre la loi travail initié par le gouvernement socialiste, l'UNEF, lié au Parti socialiste, qui avait déjà entamé un recul dans la phase antérieure, s'est effondré, de même que Solidaire étudiante. La FAGE, regroupement d'associations corporatistes proches du centre droit ayant soutenu Parcoursup, est devenue première organisation étudiante capitalisant sur le vide politique alors laissé. Dans le même temps, les autonomes ont alors capitalisé sur ce vide et ont pu mettre à l'épreuve leur stratégie dans le mouvement de 2018 contre Parcoursup, dans lequel ils ont eu un poids prépondérant. Dans celui-ci ont eu lieu une série d'assemblées générales massives avec des chiffres comparables aux assemblées de l'époque du moment du CPE. Le mouvement n'a quasiment pas eu d'expression vers l'extérieur et il n'y a eu aucune manifestation étudiante massive organisée. Les blocages et occupations sont alors devenus des objectifs en soi, plus que des moyens d'action pour mobiliser la masse des étudiants. C'est alors devenu un mode de vie et les facs des enclaves alternatives et affinitaires, parfois appelées ZAD ou communes libres. Si les assemblées générales et tentatives de coordination étaient combattues par ce qui restait de l'UNEF, elles étaient également accusées par les autonomes d'autant de tribunes pour le noyautage des orgas, au profit de leur politique de repli sur soi, qui donna lieu à des expériences désastreuses, fuites par la masse des étudiants, et désarmant totalement le mouvement, jusqu'à ce que les occupations soient délogées par la police, les unes après les autres, sans aucune possibilité de se défendre, celles-ci ne regroupant alors souvent plus que quelques dizaines d'individus. Outre l'inopérance de telles méthodes allant à l'encontre de tout héritage des grands mouvements étudiants, on assistait alors à une importante carence sur le programme, c'est-à-dire sur le ce pourquoi il faut lutter. Le mouvement autonome, de concert avec la France insoumise, rejetant alors l'expression du mouvement étudiant comme sujet social, politique, à part entière, avec ses revendications propres et alliées du mouvement ouvrier. Après 2018, le mouvement autonome est entré en crise totale, mais le mouvement étudiant n'a pas encore réussi à dépasser ses contradictions et on continue d'assister à des tâtonnements. En 2023, dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites, on a assisté à une déconnexion totale entre la faiblesse de l'auto-organisation et la forte présence des étudiants dans les manifestations. Les assemblées générales n'avaient alors quasiment aucune incidence sur le cours des événements, du fait d'une très faible habitude d'auto-organisation, que les étudiants ont même fui du fait de la décomposition rapide des assemblées générales en raison de l'attitude des quelques militants autonomes restants, notamment en région parisienne, dont l'essentiel de l'activité a constitué à développer des méthodes de lutte politique extrêmement décomposées, agressions physiques, calomnies, etc., sans proposer aucun débouché pour le mouvement. Les étudiants ne voyaient alors pas l'université comme un lieu d'organisation, et l'expression du mouvement étudiant en tant que tel est restée marginale malgré l'énorme quantité d'étudiants dans les manifestations. Outre la dilution physique des étudiants dans la masse des manifestants, il est frappant qu'aucune revendication propre n'ait été mise en avant pendant tout le mouvement, alors que par exemple la question de la précarité étudiante est régulièrement débattue et que le repas à 1€ pour tous les étudiants a été débattu à l'Assemblée nationale en février, en plein pendant la mobilisation. Cet état de fait a limité la force de frappe du mouvement étudiant et sa massivité. Il s'est notamment retrouvé très affecté par les cours en distanciel et la répression administrative, face auxquels il n'a pas su réagir, faute d'auto-organisation. Pourtant, Zoom n'est pas un obstacle absolu, et comme toute modalité de cours et d'examen, elle peut être annulée pour concrétiser une grève étudiante de masse, avec un peu de créativité et d'organisation collective. Mais pour cela, encore faut-il que les revendications du mouvement étudiant et le « ce pourquoi il faut lutter » en vaillent la peine. Malheureusement, outre l'autonomisme, les recompositions syndicales en cours ne donnent pas naissance à de fervents défenseurs de l'auto-organisation. La France Insoumise et son relais syndical étudiant L'Alternative, qui ont désormais un poids significatif dans le mouvement étudiant, ont eu une politique globalement extérieure au cadre de mobilisation, notamment à Rennes et Montpellier, deux de leurs principales sections, où ils n'ont pas investi les assemblées générales. À la suite du mouvement, ils ont opéré une fusion bureaucratique avec des secteurs de l'UNEF sans consulter leur base, alors même que leur identité politique était jusqu'ici liée à l'idée de faire quelque chose de distinct du syndicat étudiant historique, plus à gauche, plus démocratique, avec plus d'autonomie locale, etc. Pourtant, malgré toutes les limites du mouvement en cours, il y a une nouvelle et large génération d'étudiants et d'étudiantes qui est en train de se radicaliser et de faire ses premières expériences dans la lutte. Elle se revendique plus largement anticapitaliste et très politisée contre les oppressions de ce système, le racisme d'État, le patriarcat, et est consciente qu'on va vers une crise de l'humanité avec le changement climatique. Elle a été le secteur le plus critique du rôle des directions syndicales pendant le mouvement contre la réforme des retraites, et une frange importante a cherché à concrétiser une alliance avec les travailleurs. Enfin, elle s'est débarrassée de ses a priori anti-organisation diffusés par l'autonomisme. Il s'agit d'autant de raisons pour lesquelles le gouvernement a souhaité exercer une répression pénale forte, féroce, contre les étudiants mobilisés, allant jusqu'à perquisitionner et faire des procès à des éléments perçus comme meneurs, comme ce fut le cas à Bordeaux, pour dissuader de la structuration d'une nouvelle génération militante. Comme le démontre la révolte des banlieues que nous venons de vivre, Quelques semaines après la mobilisation des retraites et alors qu'il y a moins d'un an, la grève des raffineurs manquait de paralyser le pays, la situation comprend d'importantes potentialités pré-révolutionnaires. Face à un régime radicalisé, le mouvement étudiant, qui a tant de fois fait trembler des gouvernements de la Ve République, doit se montrer à la hauteur. La situation objective du milieu étudiant, tout comme les recompositions subjectives en cours, sont un terrain sur lequel il faudrait reconstruire, et nous pourrions reconstruire, une identité historique d'un mouvement étudiant de masse, auto-organisé, plus lié que jamais aux travailleurs et dangereux pour le pouvoir, dans les conditions posées par le bouleversement des universités. C'est un objectif du point levé, qui a émergé nationalement pendant le mouvement et est désormais très implanté dans une série d'universités clés du mouvement étudiant hexagonal, comme le Mirail à Toulouse, Paris 8, Paris 1, Bordeaux 2 et 3, ou encore Paul Valéry à Montpellier. Pendant le mouvement, nous avons défendu le développement des assemblées générales et de l'auto-organisation, notamment au travers du lancement de l'Assemblée Interfac d'Île-de-France. Nous avons cherché à ce que le mouvement étudiant prenne des initiatives en propre pour briser la routine des journées d'action de l'intersyndicale, comme lors de la manifestation sauvage au quartier latin le 7 février, ou encore lors de la manifestation étudiante vers la place de la Concorde le jour du passage du 49-3, sans laquelle il n'y aurait eu aucune initiative en région parisienne ce jour-là. Nous avons participé activement aux actions de défense des piquets de grève, notamment au travers du réseau pour la grève générale, à l'image du convoi en défense des raffineurs du Havre le 24 mars. Mais les recompositions du mouvement étudiant n'en sont qu'à leur balbutiement, et l'essentiel de notre contribution reste à faire, et nous avons désormais une responsabilité non négligeable. Si les conditions objectives sont réunies, comment reconstruire un mouvement étudiant de masse, lié au mouvement ouvrier, défendeur d'une éducation publique, gratuite et ouverte à toutes et à tous, et qui se batte aussi pour les conditions d'existence des étudiants et contre la précarité? Une hypothèse que fait Robbie Mordeur pour expliquer la faiblesse des mobilisations nationales sur les revendications universitaires de ces dernières années, c'est que les formes de mobilisation antérieures centralisées sur les questions universitaires sont devenues obsolètes avec l'autonomie des universités, qui place la discussion sur un terrain d'université, voire de filière. Il y a donc une gymnastique importante à développer entre les luttes locales et la nécessité d'élargir les revendications sur la scène nationale pour sortir de la mise en concurrence des facs entre elles. Par ailleurs, le politologue souligne que si la thématique de l'égalité dans l'accès aux études au centre du mouvement contre la loi de Devaquet demeure, les conditions de vie et de travail ainsi que l'insertion professionnelle occupent une place de plus en plus importante. Dans les universités, beaucoup plus imbriqués avec les entreprises, où se généralisent les stages professionnels, l'alternance, l'apprentissage, les filières liées directement à des grands groupes capitalistes ou à des concentrations ouvrières, à l'image du récent partenariat entre l'université de Cergy, qui compte 30 000 étudiants, et l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, qui est la principale concentration ouvrière d'Île-de-France, un exemple parmi tant d'autres, les revendications universitaires doivent de plus en plus être liées à des revendications salariales, à commencer par l'exigence que tout travail effectué par les alternants, les stagiaires et les apprentis soit rémunéré comme celui des travailleurs en poste, à travail égal, salaire égal. Aussi, ces revendications doivent être portées par les syndicats professionnels et nous devons militer en faveur de l'unification des travailleurs en poste et ceux en formation. Aussi, si les étudiants dans les filières comme AES, LEA, gestion ou encore dans les IUT ont ces dernières années joué un rôle marginal dans les mouvements étudiants, il s'agit pourtant des secteurs des universités d'origine les plus populaires, dont les effectifs ont beaucoup augmenté ces dernières années. Ces secteurs, jusqu'ici délaissés par les organisations étudiantes politiques et syndicales, peut-être ont-ils un rôle important à jouer dans la recomposition du mouvement étudiant, pour dépasser l'entre-soi pourrissant des vieux courants, principalement implantés en sciences humaines et en arts, qui a fait cette année fuir les cadres d'auto-organisation par les étudiants mobilisés contre la réforme des retraites. Si ces secteurs sont souvent considérés comme dépolitisés avec désintérêt par les organisations étudiantes, la puissante révolte des quartiers populaires de cet été est une alerte sans équivoque sur les niveaux de radicalité contre le régime d'une partie importante de la jeunesse des quartiers populaires qui compose d'importants contingents de ces filières. L'action syndicale n'est sans doute pas le seul vecteur pour organiser ces étudiants, largement politisés contre les violences policières, sur la cause palestinienne ou encore par le contexte de crise de l'impérialisme français. Peut-être ces étudiants ont-ils un rôle particulier à jouer dans l'émergence d'un courant de jeunesse anti-impérialiste et internationaliste, à l'image de leur importance quantitative et qualitative dans les comités de soutien au peuple palestinien qui sont en train de se lancer dans l'actuel contexte de massacres en Palestine. Pour pouvoir déployer tout son potentiel, le mouvement étudiant doit renouer avec le meilleur de sa tradition d'auto-organisation, qui, combattue par les bureaucrates syndicaux et les autonomes, s'est perdue ces dernières années. À l'image de l'influence de ces méthodes pour le mouvement ouvrier après le mouvement étudiant de 1986, en 2023, les étudiants auraient pu montrer la voie au monde du travail dans le conflit des retraites, qui restait largement subordonné à la stratégie perdante des directions syndicales, faute de prise en main par la base. Une des leçons fondamentales de toute cette période, c'est que les tendances objectives ne se suffisent pas à elles-mêmes. À chaque étape du mouvement étudiant et de ses plus grandes expériences, des organisations, notamment révolutionnaires, ont joué un rôle important pour que le meilleur de la tradition se transmette, notamment l'auto-organisation. Comme courant de jeunesse révolutionnaire intervenant dans les universités, nous souhaitons prendre notre part de responsabilité face au défi de créer une nouvelle tradition dans le mouvement étudiant.